Bon réveil à tous, il est 8h. Et à la une, l'enquête d'Europe 1 sur une candidature présidentielle. Éric Zemmour structure ses soutiens, récolte des dons, rencontre déjà des maires. Même s'il n'est pas encore fermement décidé, il se tient prêt à se lancer pour 2022. Nos informations dans un instant. En Algérie, comme un parfum d'ancien régime, arrestation d'opposants et de journalistes à 48 heures d'élections législatives contestées. Nous serons en direct à Alger avec l'envoyé spécial d'Europe 1. Et puis le nouvel album de Clara Luciani, il s'appelle Cœur et on y entend aussi Julien Doré. C'est une recommandation pop qu'Europe 1 vous fait à quelques semaines de cet été déconfiné. Le journal de Roland Garros à suivre après le journal et l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Alors que tout va trop vite, alors que le climat politique hystérisé inquiète, prenons le temps ce matin d'écouter une voix rare et précieuse, celle de la philosophe Elisabeth Badinter. Rendez-vous 8h15.
A tout à l'heure.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h avec vous, François Geffrier, bonjour.
Bonjour. Imagine-t-on un homme condamné pour provocation à la haine être candidat à l'Élysée, autrement dit vouloir devenir le président de tous les Français. Europe 1 s'arrête ce matin sur l'hypothèse Éric Zemmour, un embryon de candidature que craint déjà Marine Le Pen. La présidente du RN l'a appelé à ne pas affaiblir, dit-elle, le camp national. Reste que le chroniqueur et écrivain se prépare, consulte et construit une démarche électorale.
Bonjour Louis Dragnel.
Bonjour.
Chef adjoint du service politique d'Europe 1, au-delà des prises de position publiques d'Éric Zemmour sur l'immigration, sur l'islam ou encore sur le féminisme, vous nous révélez ce matin qu'il est prêt à se lancer.
Effectivement, Éric Zemmour se prépare activement, il consulte, il a même commencé à lever des fonds. Son premier cercle, une petite équipe d'une dizaine de personnes, multiplie les rendez-vous en France avec des chefs d'entreprise, des industriels qui veulent financer sa campagne. Des dons qui, chaque semaine, convergent vers une structure, l'association des amis d'Éric Zemmour. Avec de nombreux dons de 7500 euros, le plafond autorisé. Je peux vous révéler par exemple qu'Éric Zemmour se rendra le 25 juin à Londres, toujours pour lever des fonds, comme l'avait fait Emmanuel Macron pour sa campagne de 2017. L'éditorialiste peut aussi compter sur la mobilisation d'un collectif baptisé Génération Z, qui revendique 1300 membres et organise désormais régulièrement des campagnes d'affichage Zemmour président. Et puis comme Emmanuel Macron, Éric Zemmour fait lui aussi un tour de France en ce moment, à bas bruit, toujours en fin de semaine. Il multiplie les déplacements dans les grandes villes et les campagnes, où il rencontre des maires, car ce sera son véritable premier test politique, parvenir à réunir plus de 500 signatures, là condition pour être en mesure de se présenter à la magistrature suprême.
Alors il y a les associations de soutien, il y a les collectes de fonds, bientôt les parrainages. Est-ce qu'Éric Zemmour a une date d'annonce de candidature ?
Eh bien non, il a plutôt une saison en tête, l'automne, car il veut d'abord savoir qui sera le candidat de la droite. Et c'est à ce moment-là que les Républicains devraient désigner leur candidat. En fait, si certains l'imaginent comme un candidat de l'extrême droite, Éric Zemmour, lui, se voit comme le véritable représentant de la droite classique.
Les informations de Louis Dragnel, enquête qui est déjà à retrouver sur europe1.fr.
1 milliard de doses de vaccins promises à 92 pays pauvres, annonce des dirigeants du G7 qui se réunissent en sommet d'aujourd'hui à dimanche à Carbis Bay au Royaume-Uni sur la côte de la Cornouaille. Il s'agira de partager certaines doses et d'en financer d'autres.
Une transformation profonde de la présence militaire française au Sahel, annonce hier soir d'Emmanuel Macron.
Oui, ce sont 5100 de nos soldats qui sont concernés. L'opération Barkhane, qui dure depuis 7 ans, va s'arrêter en tant que telle. Aude Leroy, qu'est-ce qui se profile concrètement ?
Eh bien, tout d'abord, il n'y a pas d'abandon du Sahel par la France, mais bien une transformation de l'actuelle opération extérieure au profit d'une présence militaire française plus souple qui continuera, avec d'autres pays européens, à appuyer la mission de l'ONU ou les forces armées africaines. La décision a été prise en Conseil restreint de défense il y a un mois et demi. La France renonce au contrôle de zones qu'elle effectuait seule sur un territoire grand comme l'Europe. En revanche, elle va continuer de manière autonome la lutte antiterroriste en s'appuyant sur ses forces spéciales, c'est l'opération Sabre, et elle accompagnera toujours la formation des soldats du G5 Sahel, qui regroupe les 5 principaux pays de la région. Alors concrètement, ce qui devrait se passer, c'est une fermeture de certaines bases, en commençant par le nord du Mali, puis en redescendant vers le sud, peut-être dès cet été. La France pourrait diviser au moins par 2 ses effectifs au Sahel d'ici la fin 2022.
Aude Leroy, spécialiste des questions de défense d'Europe 1, nous restons en Afrique, mais plus au nord, en Algérie, Algérie, pays dont les députés siègent dans ce qui s'appelle l'Assemblée populaire nationale. Reste à savoir si le terme populaire est approprié. Des élections législatives anticipées ont lieu demain. Le pouvoir cherche à renouveler sa légitimité, mais le scrutin est contesté par le Hirak, ce mouvement de manifestation né en 2019 et qui a notamment abouti au départ d'Abdelaziz Bouteflika.
Bonjour Mathieu Bock.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial en direct ce matin d'Alger. Un fait marquant dans cette campagne, c'était tout juste hier soir, des arrestations d'opposants, de journalistes, notamment Khaled Drareni, l'ancien correspondant d'Europe 1 dans le pays.
Oui, ils ont tous été interpellés quasiment au même moment à plusieurs endroits de la ville. En tout, on parle d'une dizaine d'opposants arrêtés hier dans tout le pays. Alors j'ai contacté la mère de Khaled Drareni qui a pu parler à son fils au téléphone dans la nuit. Il lui a confirmé qu'il était détenu à la caserne militaire Antar, c'est-à-dire au siège des services de renseignement intérieur. Son avocate, Zoubida Assoul, est également présidente du parti politique UCP, l'Union pour le Changement et le Progrès. Elle aurait pu se présenter aux élections, mais comme beaucoup d'autres partis d'opposition, dans ces conditions, elle a préféré boycotter le scrutin.
Aujourd'hui, nous avons 217 détenus quand même d'opinion, des intellectuels, des journalistes, des jeunes, des étudiants, des femmes, des vieux, des vieilles. Politiquement, je ne peux pas m'associer à une telle mascarade parce que mes compatriotes sont encore en prison, parce qu'un avocat est en prison, parce qu'il était l'avocat d'autres hirakistes.
Mathieu, dans ce contexte, est-ce que les Algériens qui veulent du changement peuvent se saisir de cette élection ?
Eh bien, c'est vrai que c'est difficile de mobiliser. Alors on voit bien sur les murs blancs de la ville quelques affiches soigneusement alignées. Ce sont d'ailleurs plusieurs fois les mêmes visages que l'on retrouve un peu partout. Mais dans les rues d'Alger, ces élections sont presque un non-événement. Beaucoup d'Algériens sont touchés par ces arrestations. Et la sensation que rien n'a changé en deux ans décourage la plupart de ceux que j'ai rencontrés d'aller voter.
Non, je ne vais pas voter parce que ça ne m'intéresse pas et je sais qu'il n'y aura pas un changement en Algérie. Je ne veux pas savoir, je ne cherche pas à savoir ou ça ne m'intéresse pas.
Est-ce que vous irez voter ?
Non, non. Je vote pas. Impossible de vote.
Pourquoi ?
Mon frère, il est en prison. Il est détenu d'opinion. Attrapé le jour de son anniversaire. Il avait 19 ans.
Alors le pouvoir, de son côté, considère que les manifestations du Hirak n'ont plus lieu d'être, puisqu'un nouveau président a été élu et que de nouvelles élections législatives auront donc lieu demain. Aujourd'hui, donc vendredi, jour traditionnel de manifestation, on verra si les autorités laisseront les Algériens descendre dans la rue à quelques heures d'un vote que le pouvoir espère comme étant une étape de plus vers la normalisation du pays.
En direct d'Alger, notre envoyé spécial pour Europe 1, Mathieu Bock.
Il est 8h07 sur Europe 1 et ça y est, c'est ce soir, enfin 21h, le coup d'envoi de l'Euro de football.
Turquie, Italie, match d'ouverture à Rome où nous étions dans le journal de 7h. Il aura fallu patienter un an pour voir cette compétition, toujours officiellement baptisée Euro 2020. Décalage inédit, les sponsors, les campagnes de pub, tout a dû être reporté. Aurélien Fleureau, avec quel impact économique ?
Alors l'incertitude liée à la situation sanitaire a retardé beaucoup d'investissements, des campagnes calées d'habitude de longs mois à l'avance n'ont été décidés que ces dernières semaines, mais tous les sponsors sont restés et comme toujours, l'impact économique va se mesurer grâce aux dépenses de consommation. Les bars espèrent attirer un maximum de monde et puis il y a bien sûr les produits dérivés. Selon une étude ING, un Français sur cinq a prévu de dépenser en moyenne 99 euros en maillot, casquette ou décoration. Un engouement pour le maillot des champions du monde, c'est ce qu'anticipe Virgile Caillet, délégué général de l'Union Sport et Cycle, qui représente les commerces et les marques du secteur.
Je vous rappelle quand même qu'en 2018, il y a eu cette frustration de beaucoup de supporters qui n'avaient pas trouvé ce fameux maillot 2 étoiles à l'époque. Et puis quelques personnalités fortes sur des maillots qui se vendent bien, évidemment Mbappé, Griezmann, mais aussi Benzema. On pense que cette année, ça va être encore plus fort que d'habitude.
Et preuve qu'un euro de foot, cela reste très prisé, un annonceur qui voudra être présent avec un spot pendant la mi-temps d'une éventuelle demi-finale avec les Bleus sur TF1 devra débourser 20% de plus qu'en 2016.
Aurélien Fleureau, et à propos de l'économie du football, encore une affaire de cyberattaque. Cette fois, c'est l'éditeur américain de jeux vidéo EA Games qui est touché. Le code source, le code informatique de certains de ses titres, notamment le célébrissime jeu de foot FIFA 21, a été dérobé.
Et toute l'info sur cet Euro qui démarre, c'est à 8h30, le journal de l'Euro chaque matin. La culture à présent, après deux victoires de la musique, un premier album vendu à 200 000 exemplaires, c'est le retour de Clara Luciani.
Avec son album Cœur, 11 titres que l'on peut qualifier de pop et amoureux, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Angèle Châtelier, la spécialiste musique d'Europa, qui a pu interviewer Clara Luciani.
C'est un peu l'amour sous toutes ses formes, ça peut être aussi l'amitié.
comme celle que vous partagez avec Julien Doré qui s'est invité sur cet album.
C'est super agréable de pouvoir matérialiser cette belle histoire d'amitié et de pouvoir l'immortaliser aussi. Comme ça, c'est comme une espèce de photographie.
Joue-moi quelque chose de beau.
Vous évoquez votre public aussi, votre manque des concerts.
C'est ce que raconte Respire encore, par exemple.
Mais toutes les chansons ne sont pas joyeuses. Cœur, par exemple, qui ouvre l'album, évoque les violences conjugales.
C'est un sujet extrêmement sensible, mais il me semblait nécessaire de l'évoquer.
Enfin, Clara Luciani, on entend énormément de basses dans cet album. C'est un peu votre patte.
On lui a fait une place d'honneur, je crois encore plus que sur le premier album. Mon papa est bassiste, donc je pense que c'est de là que vient mon obsession.
On n'épousait pas les chanteurs, c'est où l'on fermait le vent. C'était pas un papillon, c'est mettre en cage un lion. On n'épousait pas les chanteurs.
Le chanteur, c'est l'un des titres de ce nouvel album, Cœur, signé Clara Luciani.
Le journal signé François Geffrier sur Europe 1, il est 8h10. Direction la Porte d'Auteuil dans quelques secondes, le journal de Roland Garros.
Europe 1, le journal de Roland Garros.
Bonjour Corinne Boulou.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
On avait tous les deux envie de pleurer, on s'est retenu parce que c'était fort. On va jouer une nouvelle finale de Grand Chelem. Voilà, les gens ont l'esprit à la fête et on le ressent comme ça.
Une ambiance de Coupe Davis hier pour accompagner vers une cinquième finale en Grand Chelem, une deuxième à Roland-Garros, le double français Nicolas Mahut, Pierre Hugerbert. Rendez-vous demain après la finale dames.
Le chiffre du jour, c'est 4.
Comme les 4 jeunes français dans le dernier carré du tournoi junior de Roland-Garros, c'est historique. Ils ont tous 17 ans, Arthur Fils les fête même aujourd'hui, et l'un des 4 copains sera désigné vainqueur demain.
Une première pour les jeunes loups, Zverev et Tsitsipas.
Oui, le grec numéro 5 mondial et l'allemand numéro 6 mondial ne se sont jamais encore affrontés en Grand Chelem. Alexander Zverev visera à 24 ans une deuxième finale en Grand Chelem après celle perdue à l'été 2020 à l'US Open. Stefanos Tsitsipas rêve lui à 22 ans d'une première finale en Grand Chelem.
Le match du jour avec des retrouvailles en demi-finale. L'autre demi-finale entre Rafael Nadal, le tenant du titre, et le numéro 1 mondial Novak Djokovic.
Oui, épisode 58 sur le circuit, épisode 9 à Roland-Garros. D'ailleurs, à l'automne dernier, en finale, le Serbe avait été balayé en 3-7 par l'Espagnol magistral, comme nous le rappelle notre consultant Cédric Pioline.
Oui, il l'avait étouffé en fait. Il avait vraiment joué d'une manière assez incroyable, même au point que Djokovic montrait une frustration et en fait une impuissance sur le court par rapport à ce que lui proposait Rafael Nadal. C'est un mélange qui est toujours très délicat contre Nadal, c'est-à-dire qu'il faut être capable de renvoyer, il faut être capable d'attaquer lorsque les occasions se présentent, et je pense qu'il va être obligé d'être un petit peu plus agressif que ce qu'il fait naturellement, parce que sur le jeu pur fond de court, sur terre battue, Nadal me semble supérieur à Djokovic.
Et n'oublions pas que Nadal n'a jamais perdu une finale et encore moins une demi-finale à Roland-Garros, Sébastien.
Voilà, c'est une belle journée qui s'annonce à Roland-Garros. Je retiens quand même ces excellentes nouvelles pour le camp français. On a parlé de la Bérésina dans les tournois simples, mais une finale pour Mahut, Herbert en double. Et alors, les 4 demi-finalistes des juniors sont tous français. Ça, c'est assez incroyable. Corinne Boulou, vous nous faites suivre Roland-Garros, bien sûr, tout au long de la journée. 8h14 sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
À suivre, Sonia Mabrouk et son invitée, la philosophe Elisabeth Badinter. À tout de suite.
Europe Matin,
le 7-9.
Sébastien Krebs.
8h17 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invitée ce matin, la philosophe et femme de lettres, Elisabeth Badinter.
Bienvenue à vous et bonjour Elisabeth Badinter.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Un climat politique et public hystérisé, des agressions, qu'elles soient physiques ou verbales, à l'encontre de ceux qui incarnent l'autorité et la République, jusqu'à la gifle donnée au chef de l'État. De quoi ce climat est-il le nom, selon vous ?
D'une déliquescence de la démocratie, d'une, à mon avis aussi, d'une perte du langage, c'est-à-dire que quand on donne... un coup, quand on se laisse aller à la violence, ça veut dire qu'on n'a plus les mots pour débattre, ce qui met en cause beaucoup d'institutions et peut-être aussi l'école. Je suis frappée de voir qu'il y a quelque chose de presque d'animal et de non-humain dans ces coups. Et je dois vous dire que pour ma part, quand j'ai vu ces images, comme toute la France et peut-être le monde entier, j'ai été terriblement choquée, inquiète, et je dirais presque humilié, qu'on touche à la personne du président de la République parfaitement régulièrement élue par le peuple, et que ce soit vu par le monde entier, m'a été un chagrin.
Les mots sont forts, un chagrin également. Vous avez cité l'école. Comment faire en sorte, Elisabeth Badinter, que l'enseignant dans sa classe soit respecté? Comment faire en sorte que les policiers ne soient pas considérés comme une bande rivale? Comment restaurer cette autorité au sens noble du terme minée par de multiples attaques?
Je ne sais pas répondre à toutes ces questions. J'ai été professeur de lycée il y a longtemps, donc je peux peut-être essayer de répondre à celle-ci. Je pense qu'il est aussi du devoir du professeur de tenter d'être le plus neutre, le plus objectif possible, le moins idéologique possible. Et je sais que c'est difficile, c'est très difficile, et probablement on n'y arrive pas toujours. Mais il faut, à l'école, et pour être respecté, d'une part, une autorité personnelle, j'ai envie de dire, et d'autre part, cet objectif de tenter d'être le plus objectif devant ses élèves, afin qu'ils puissent exercer librement leur esprit critique. Voilà, c'est un peu abstrait tout ça, mais quand on l'a vécu, on sait que c'est important.
C'est important au moment où les possibilités de dialogue s'amenuisent. Chaque camp, dans son camp, face à un autre, certains pensent détenir la vérité et être d'ailleurs dans le camp du bien. Est-ce qu'un tel moment paroxystique est inédit de votre point de vue ou est-ce qu'il faut le relativiser en ce moment?
Ah non, 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 moi j'ai pas du tout envie de relativiser. Je ne suis pas jeune et je n'ai jamais connu ça. C'est-à-dire que je comprends très bien, et naturellement j'assume, qu'une démocratie à l'occidentale soit toujours, comment dirais-je, améliorable. Et nul doute, nous tendons vers un objectif, mais évidemment pour y arriver c'est très long. Mais tout de même, nous avons la chance de vivre en Occident d'ailleurs, dans des régimes qui sont démocratiques, où on assume les libertés d'expression, où on a le droit à la critique, on a le droit de parler, et j'ai le sentiment que on est en train d'essayer de nous censurer, de nous interdire d'exprimer notre opinion. Je trouve ça très grave. J'ai presque l'impression que c'est notre civilisation qui est en danger.
C'est un enjeu de civilisation. Alors
oui,
selon
c'est
le,
un enjeu.
Le mot est parfois tabou, oui, parce qu'il est assez
ça
fort.
Ça m'est égal, je l'utilise.
Je le comprends bien.
Mais ce que je voudrais vous dire, j'ai le sentiment que les habitants des démocraties, n'ayant pas connu vraiment de guerre, de violence depuis la dernière guerre mondiale, ont tout simplement oublié que les civilisations sont mortelles et que souvent l'histoire est tragique et que lutter contre les acquis de cette civilisation peut nous mener très loin.
Et nous ne serions pas en ce moment suffisamment conscients collectivement, et d'ailleurs peut-être aussi ceux qui nous gouvernent, suffisamment conscients de ce qui est en jeu.
Je pense que oui. Je pense que je me souviendrai toujours. Et ça a commencé il y a très longtemps, cette déliquescence de la protection de nos libertés. Souvenez-vous, dans les années 80, les pacifistes étaient à l'ouest et les Russes avaient pointé contre l'Occident ses fusées. Et le slogan était déjà « plutôt rouge que mort ». Ce qui voulait dire que nous étions prêts à reculer sur nos valeurs. Eh bien, c'est vrai qu'une civilisation meurt quand certains qui veulent imposer des valeurs et des principes qui ne sont pas les nôtres avancent, eux ils avancent, et que nous ne défendons pas, nous reculons sur nos exigences.
Donc c'est par défaut de combattant au sens de défenseur de la civilisation que celle-ci peut mourir, que notre civilisation occidentale, judéo-chrétienne, peut mourir.
Absolument. C'est ce qui s'est passé pour de nombreuses civilisations. La nôtre a été à l'origine fondée au XVIIIe siècle, puis a progressé peu à peu. Encore une fois, elle est perfectible, on peut changer des choses, mais on ne doit pas reculer sur nos principes. Et parmi ces principes, il y a ce qui est la censure, la fin du droit de parole et ça me semble extrêmement grave. Je pense aussi qu'il y a un individualisme tel que le combat collectif est devenu plus difficile aujourd'hui qu'à d'autres époques.
Et vous êtes, Elisabeth Badinter, engagée depuis très longtemps dans des combats, des causes pour l'universalisme, la laïcité, contre les communautarismes, des causes qui provoquent de fortes crispations, parfois des attaques virulentes à votre encontre. De quoi sont-elles le révélateur, là, en ce moment ?
Je pense qu'il y a en ce moment deux points de vue sur la conduite du monde et les régimes politiques que l'on souhaite. Bon, on sait très bien que les anglo-saxons sont majoritairement communautaristes, mais dans un communautarisme, je dirais, qui est conforme à une démocratie telle que nous la pensons, aujourd'hui, il y a quelque chose de différent qui est arrivé. C'est-à-dire que le communautarisme tel que nous l'observons aux États-Unis, dans les universités, et pas seulement les universités américaines, malheureusement, qu'ils essayent d'exporter chez nous, c'est le séparatisme qui est en train de subvenir. L'universalisme est maintenant considéré comme un gros mot. L'universalisme, c'est un objectif à atteindre je ne sais quand. C'est un objectif qui tient compte du concept d'humanité, ce qui nous rassemble et pas ce qui nous distingue. Et je pense que le développement du communautarisme anglo-saxon tel que nous le voyons apparaître, c'est une arme redoutable, absolument redoutable, contre la démocratie en
J'entends
général.
J'entends et je note ce que vous dites, le communautarisme est un séparatisme. Demain, Elisabeth Badinter, il y aura une marche, intitulée « Marche des libertés contre », c'est ainsi que c'est intitulé, les idées d'extrême droite dont certains estiment qu'elles progressent, y compris au sein du gouvernement. Parmi les signataires de cet appel pour cette marche, il y a Jean-Luc Mélenchon ou encore Rokhaya Diallo. Cette menace qu'il pointe, elle est réelle ?
Écoutez, oui, elle est sûrement possible en tous les cas. Elle est très possible. Les identitaires sont très violents et on peut effectivement s'en inquiéter. Pour autant, jusque-là, qui tue ? Qui tue ? Et je n'ai jamais entendu, vous m'entendez jamais, l'extrême gauche ou la gauche radicale séparer l'islamisme politique des musulmans. Tout est englobé sous le nom de musulmans, comme si, par conséquent, toute attaque était une attaque islamophobe. Ce qui est radicalement faux. Alors, je veux bien, c'est très bien d'aller manifester contre l'extrême droite qui peut être violent, qui le sera peut-être, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, je voudrais qu'il se soit avec objectivité et qu'on arrive à juste articuler le mot islamisme politique dans le cas de violence, d'attentat. Mais ça, jamais.
De violences, par exemple, et de menaces graves contre la jeune femme Mila. Les menaces repartent et redoublent d'intensité à son encontre. La jeune femme reste combative, mais dans un entretien au magazine Le Point, elle met en avant aussi une fatigue morale. Une vie confisquée, totalement entre parenthèses. « Je n'en peux plus », dit-elle, « c'est monstrueux ». Mais qu'est-ce qui peut arrêter cette spirale, Elisabeth Badinter ?
Ça ne sera pas le combat des féministes à ses côtés. Je remarque qu'elle est d'une solitude extrême. Je suis absolument frappée de voir que cette jeune femme qui maintenant vit dans des conditions insupportables pour n'importe qui n'est pas défendue par les autres femmes. Et c'est toujours pareil, c'est le silence. Quand la victime ne vous plaît pas, eh bien on se tait. Mais en revanche, quand la victime peut vous servir, alors on parle.
Malgré tout ce que l'on vient d'évoquer comme sujet lourd, difficile, est-ce que vous gardez espoir ? Qu'est-ce qui sous-tend, qu'est-ce qui porte encore cette flamme qui vous fait croire et espérer, Elisabeth Badinter ?
Eh bien, je crois que c'est en particulier et en partie le combat des intellectuels qui prennent publiquement parti, et notamment à l'université. Je trouve ça très courageux, mais c'est pour moi un facteur d'optimisme parce que je n'observais pas ça dans tous les pays occidentaux atteints par le même problème.
Mais en cela, la France reste singulière.
Et en cela, la France reste singulière. Elle n'a pas envie qu'on lui impose la loi. Elle gardera, à mon avis, pour un moment, en tous les cas, confiance dans ses principes. Et encore, juste un petit mot. Le mot universalisme est devenu quasiment un gros mot ou un mot décadent. Je voudrais absolument dire à ceux qui nous écoutent que c'est un combat magnifique que de combattre pour la réunion, pour la ressemblance des êtres humains, voilà, et non pas de combattre pour les différences qui vous rend inaccessible à l'autre.
Merci Madame Badinter. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs, bien sûr.
Merci.
Merci à vous deux. Il est 8h29 sur Europe 1. À suivre, le rappel de l'info, Marion Calais, et puis le journal de l'Euro. C'est le grand jour, match d'ouverture ce soir. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
8h31, le rappel des grands titres de l'actualité. Marion Calais.
Les vaccins au menu du sommet du G7. 1 milliard de doses promises pour les pays pauvres. Dès hier, Emmanuel Macron appelait aussi les laboratoires à prendre leur part en donnant 10% des doses vendues. Gérald Darmanin, une nouvelle fois désavoué. Fin mai, le Conseil constitutionnel avait retoqué l'article sur la provocation à l'identification des forces de l'ordre. Hier, c'est le Conseil d'État qui a annulé plusieurs dispositions du schéma du ministère de l'Intérieur en matière de maintien de l'ordre. La juridiction rejette notamment l'obligation faite aux journalistes de quitter les lieux d'une manifestation après dispersion. Et puis une semaine après la panne des numéros d'urgence, les explications d'Orange attendues aujourd'hui. Conclusion rendue de l'enquête interne sur l'incident qui a conduit à ces perturbations.
La chaude météo du jour, Laurent Cabrol.
Oui, la chaleur est là, c'est une bonne chaleur. C'est une chaleur de 23 à 34 degrés, la chaleur comme hier. Le temps ressemblera à celui d'hier d'ailleurs, avec une nuance importante. Les orages, au lieu d'être présents dans l'Est, seront présents dans l'Ouest, c'est-à-dire sur les plaines du Midi-Pyrénées, de la Aquitaine, le Languedoc, le Roussillon et la vallée de la Garonne. Prudence dans ces régions, c'est là qu'ils seront les plus violents.
Merci à vous Laurent Cabrol. 8h33, dans quelques secondes tout juste, le journal de l'Euro. A tout de suite. 8h33, le journal de l'Euro. Bonjour Cyril de la Marinerie.
Bonjour.
C'est le grand jour, ça y est, c'est le top départ ce soir.
Oui, avec la Turquie qui affrontera l'Italie au stade olympique, coup d'envoi 21h à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1, radio diffuseur de l'UEFA Euro 2020. Un choc donc entre l'excellente Turquie qui avait battu la France championne du monde en 2019 et puis l'Italie, revancharde, grande absente de la dernière Coupe du Monde, mais en pleine renaissance. Simon Rubin, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Rome.
Ah oui, on peut parler effectivement de renaissance. L'Italie qui arrive quand même sur une série de 27 matchs consécutifs sans défaite. Depuis le traumatisme de la non-qualification au mondial russe, on assiste à une métamorphose à l'initiative de Roberto Mancini, l'entraîneur, qui a d'abord changé la manière de jouer vers un jeu plus offensif. Et puis il a fait tomber les vieilles idoles, il a fait émerger une nouvelle génération. Cette équipe d'Italie, elle a plus de stars comme Totti, Pirlo, Del Piero à la grande époque, mais elle a réussi à constituer un groupe homogène, soudé et surtout qui meurt d'envie de retrouver la lumière à l'occasion de ce match d'ouverture.
Simon Rubin, que l'on retrouvera ce soir pour le commentaire de ce match, il y aura un peu d'ambiance. Le stade olympique sera accessible à 16 000 personnes, soit 25% de la capacité totale de l'enceinte.
L'actualité des Bleus avec la visite hier du président de la République et de son épouse à Clairefontaine.
Oui, comme en 2018, Emmanuel Macron s'est rendu au château de Clairefontaine. Le président de la République, grand fan de ballon rond, a déjeuné avec les joueurs. Il a pris des nouvelles de chacun, notamment de la blessure de Karim Benzema qui lui a répondu que tout allait bien. Le chef de l'État a rappelé l'importance d'avoir un bon esprit de groupe. Il a lancé « Allez jusqu'au bout ». Ce à quoi Antoine Griezmann a répondu « On va essayer ».
Bah oui, j'espère bien. Justement, est-ce qu'il y a des tension au sein de l'équipe de France?
Alors c'est vrai qu'au soir de la victoire contre la Bulgarie, Olivier Giroud s'est plaint de ne pas avoir assez de ballons, visant indirectement Kylian Mbappé. Mais en conférence de presse, Paul Pogba a voulu dédramatiser avec humour.
Des tensions? Non, les seules tensions c'est au dos, en jambes. Donc il y a les kinés, ils sont là pour bien nous masser. Mais moi qui suis dans le inside à l'intérieur, non, il n'y a rien. Il y a toujours eu une très bonne ambiance. Je pense, je suppose, entre Olivier et Kiki, non, il n'y a rien du tout. En tout cas, devant moi, il n'y a rien.
Comme chaque matin, nous continuons le trombinoscope des Bleus avec l'adjoint de Didier Deschamps.
Après Hugo Lloris, Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe, Guy Stéphane nous présente aujourd'hui le petit nouveau de l'équipe de France, le jeune et talentueux défenseur de 22 ans, Jules Koundé.
Koundé, c'est un joueur qu'on suit avec Didier depuis pas mal de temps, en particulier depuis son arrivée à Séville. C'est un joueur qui a la possibilité de jouer dans l'axe et sur le côté droit. C'est pas un joueur très grand, mais c'est un joueur qui a un très bon jeu de tête, très bon sens de l'anticipation. C'est vrai que si c'est une des surprises de la liste, c'en est pas une pour nous.
Et ce soir, rendez-vous à 20h, 23h30, Europe 1 Football Club, présenté par Lionel Rousseau avec nos consultants, avec Giroud, Aline Riera, notre nouvelle consultante, nos experts, et l'invité Philippe Mexès, l'ancien international, ancien joueur notamment de la JOCR. Il sera avec nous pour commenter notamment ce grand match d'ouverture entre l'Italie et la Turquie.
Et c'est parti jusqu'au 11 juillet. Très belle soirée foot à vous, Cyril de la Morinerie. 8h37 sur Europe 1. Et nous prenons soin des, les uns des autres. Notre santé dans un instant avec vous, Jimmy Mohamed.
Et je vais vous parler de football et plus particulièrement de ce qui fait la différence entre un bon gardien et un très bon gardien de but. Et vous allez voir que tout se joue non pas au niveau des mains, mais au niveau des yeux.
Ouais, le foot est partout, ça y est, l'Euro est bien démarré. Fanny Agostini, notre planète à suivre également, et Nicolas Canteloup pour l'arbitre presque.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
8h39, notre santé. Bonjour docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Alors on va regarder le football, mais d'un point de vue, du point de vue de, du corps humain et de la santé. Vous vouliez faire un focus ce matin sur ce sport qui est plus exigeant qu'il n'y paraît.
Oui, le football requiert de nombreuses qualités physiques et c'est probablement l'un des sports les plus complets car au-delà de taper dans la baballe, le foot va faire travailler votre cardio au travers de courses à haute intensité, c'est-à-dire des moments de sprint comme lorsque Mbappé part du milieu de terrain vers les buts, mais aussi votre endurance grâce à des courses à plus faible allure mais durant une période plus soutenue. Eh bien, la répétition de ces changements de rythme va augmenter rapidement vos capacités de résistance et venir muscler tout simplement votre cœur. C'est aussi un sport collectif qui nécessite une bonne capacité de communication, d'autant qu'il faut respecter une certaine tactique pour espérer remporter un match. Et puis, il suffit de regarder Benzema pour comprendre qu'il faut une bonne musculature, notamment de bons fessiers, de bonnes cuisses et de bons abdominaux pour réussir à marquer des buts. Et tout cela sans parler des gestes techniques qui requièrent une excellente dextérité.
Tout ce que vous dites est valable pour tous les postes, excepté peut-être le gardien de but.
Oui, et c'est d'ailleurs des chercheurs allemands ont cherché à savoir ce qui distinguait un grand gardien de but comme Hugo Lloris d'un gardien de but amateur. Et la différence entre un bon et un moins bon gardien se trouverait, non pas au niveau des mains, mais au niveau de leurs yeux, et plus particulièrement de leur mouvement oculaire. Pour cela, ils ont équipé des gardiens de but professionnels et amateurs de lunettes de réalité virtuelle, afin de capter les mouvements oculaires par un instrument qu'on appelle un oculomètre. Eh bien, ils se sont rendus compte d'une chose assez incroyable, c'est que les gardiens de but professionnels n'ont pas les mêmes yeux, ils n'ont pas les mêmes résultats oculaires que les autres. En clair, un très grand gardien de but a de meilleures capacités d'analyse visuelle et des mouvements oculaires plus rapides et plus précis que les autres, ce qui leur permettrait d'anticiper chaque action, voire même d'arrêter des pénalties. L'idée derrière cette étude, c'est de se servir de cette découverte, peut-être pour détecter ou former les gardiens de demain grâce en partie à leurs yeux.
Voilà, c'est passionnant. L'œil des gardiens de but avec le docteur Jimmy Mohamed ce matin. On vous retrouve à 15h dans son rendez-vous avec Mélanie Gomez. À tout à l'heure, Jimmy Mohamed, 8h41. Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
On regarde notre planète avec vous et vous vouliez mettre en lumière ce matin l'apparition récente de recycleries sportives qui se démènent pour appliquer le zéro déchet au monde du sport.
Oui, la première du nom est née en 2015 dans l'Essonne et trois autres centres sont apparus depuis. Il s'agit de recycleries sportives qui essaient d'éviter qu'un maximum d'articles de sport et de loisirs soient jetés ou recyclés. Elles fonctionnent sur la base du don, en servant de lieu de dépôt ou en organisant ponctuellement des tournées de collecte. Une fois collectées, les centres trient les articles en cherchant avant tout à directement les réemployer, les réparer si c'est possible et les démanteler pour utiliser les matériaux sous une autre forme ou encore les recycler lorsque rien d'autre n'est envisageable. Une approche zéro déchet qui passe aussi par la sensibilisation de tous les partenaires avec qui les recycleries entrent en contact.
Cette récupération, elle permet de faire l'économie circulaire de la masse de déchets sportifs, hein, qui sont produits annuellement.
Oui, l'ADEME mesurait 104 tonnes de déchets d'articles sportifs en 2018. Un chiffre conséquent étant donné les tissus et plastiques en tout genre utilisés pour faire ces équipements. Les recycleries sportives ont réussi à en récupérer 80 tonnes 2 ans plus tard, leur permettant de remettre en circulation des équipements touchant à 40 sports. Mais tous ces déchets leur permettent aussi de revendre des équipements à bas prix et d'animer des ateliers de réparation en sollicitant de petites contributions de leurs adhérents pour supporter les coûts de fonctionnement. Une manière de valoriser des objets déchus pour rendre le sport accessible à un cercle élargi de personnes.
Et ce modèle de recyclerie sportive, il est viable ?
Il n'y a qu'à voir l'expansion des recycleries sportives depuis leur création en 2015. Des sites ont poussé à Massy, Paris, Mérignac et Marseille, et 5 autres sont prévus à l'ouverture à Lyon, Grenoble, Chambéry et Lille, ainsi que dans le Tarn. De quoi déployer un réseau conséquent en anticipation du 1er janvier 2022. C'est la date à partir de laquelle une filière pollueur-payeur sera créée pour les articles de sport et des loisirs. Ce type de filière prévoit que les producteurs incluent le processus de fin de vie des produits dans leurs coûts. La loi prévoit la création de centres de massification des déchets où les organismes donnant une seconde vie aux produits pourront s'approvisionner. L'occasion pour le modèle d'économie circulaire solidaire des recycleries d'être systématisé.
Voilà, la seconde vie des produits sportifs. Avec vous Fanny Agostini, bonne journée à vous. Et à lundi 8h43, Nicolas Cantelou est prêt avec Julie. C'est la revue de presse dans quelques secondes sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
8h46, c'est parti, la revue de presse, Nicolas Cantelou et Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Cantelou. Et on retrouve tout de suite Sébastien Krebs pour l'actualité.
Non, pas du tout, pas du tout. Elle insiste, Julie. Elle essaye. Non, on retrouve, ma chère Julie, on retrouve,
on y
bien sûr.
Pas, hein.
Non, toujours pas. On retrouve Mathieu Béliard, bien sûr. L'homme qui arrive à vous faire un point complet sur l'info tout en étant en claquette kimono dans un transat. Et oui, si vous me voyez sur. Non, vous n'avez pas sur Internet. Allez, si je m'écoutais, je vous ferai le journal même de 9h tout en aspirant dans une noix de coco avec une paille éco-équitable. Allez, on y va. C'est fou, Julie. Franchement, ça m'a crevé cette semaine de vacances à me lever pour pas me faire gauler ma place par Sébastien. Bon, allez, l'info du jour, chers auditeurs, allez, on est sérieux. L'info du jour, c'est le début de l'Euro,
oui,
vous le savez.
Oui,
c'est parti pour un mois de football, qui suit d'ailleurs, il faut bien le noter, un mois de tennis et qui précède, il faut le dire aussi, un mois de vélo.
De vélo, ben oui. Hein,
en fait, ça servait absolument à rien de vouloir rouvrir absolument les salles de sport, puisque les Français, on le sait, on sont déjà sportivement overbookés et sans risque de blessure, à part bien sûr des escarres fessiers après 8 heures sur le canapé. Allez, l'autre info, vous le savez, oui. on en a parlé, c'est Damien Tarel. Damien Tarel, le gifleur d'Emmanuel Macron qui a pris 18 mois de prison, dont 4 fermes avec incarcération immédiate. Une peine qui... Hein ? Quoi ? Pardon ?
Ah, y a... Attendez, il y a...
Non, attends, oui, Stéphane Bern, c'est ça qui
veut... Oui, il y a Stéphane qui veut intervenir.
Oui, pardonnez-moi. J'adore, je m'y. Je suis désolé, mon cher Mathieu. Non, mais je me disais, puisque Damien Tarel, qui a d'ailleurs un nom à coucher dehors, enfin, plutôt, il a un nom à coucher en prison.
Oh, oui.
Non, puisque ce Damien Tarel avait dit « Mon joie, Saint-Denis », etc., puisqu'il aime le Moyen-Âge, ce malandrin, on aurait pu lui donner une peine correspondant à cette période, ce serait plus judicieux.
Hein, comme par exemple.
Ben, je ne sais pas, il serait forcé de boire 5 litres d'eau. Ensuite, on lui mettrait un entonnoir dans l'ionf, lequel on aurait versé du miel. Mais c'est les usages. On aurait versé du miel et des fourmis rouges. Puis, on lui aurait arraché les ongles à la pince à sucre. C'est très délicat. En le forçant à chanter des fabliaux. Oui, je vois mon Laurent Cabrol qui est perdu. Alors, un fabliau est un petit récit en vers de 8 syllabes. Pour Laurent et tous les ignares qui nous entourent. Alors, on kiffe toujours autant l'univers médiéval, petit Margoulin de Damien Tarel. Non, mais je dis ça parce que je n'aime pas, je vous le dis tout de go, je n'aime pas qu'on soufflette mon Emmanuel.
Oui, on a bien compris. Puis, faites-nous grâce des détails avec l'entonnoir et tout ça.
Oui.
Allez, merci Stéphane.
Et pourquoi vous insistez sur l'entonnoir
Emmanuel Macron déjeunait hier avec l'équipe de France de foot. Bonjour, Monsieur le Président.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, hier j'ai déjeuné avec les 26 bleus, contrairement à avant-hier où j'ai déjeuné avec un bleu. Un bleu, très
un
exactement.
Bleu.
Oui, un bleu à la joue gauche.
Ah oui, oh là là.
Oui, parce qu'au-delà de ce qu'on a pu dire, il a giflé fort en fait ce petit con de Damien Tarel. Damien Tarel, Taras.
Alors, vous avez vu Kylian Mbappé, au fait, il était de bonne humeur parce qu'il paraît qu'il a été agacé par une déclaration d'Olivier Giroud.
Oui, alors je l'ai même un peu soulagé parce que je lui ai dit, vous savez, cher Kylian, vous avez Olivier Giroud dans votre équipe, mais ne vous plaignez pas. Moi, imaginez, j'ai Jean Castex. Et moi, je dois supporter ses déclarations tous les jours. Et là, je crois qu'il a pondéré son analyse et il a compris.
D'accord. Mais qu'est-ce que vous avez dit à Didier Deschamps ?
Écoutez, il est... J'ai dit ce que je devais lui dire en tant que président de la République, le président de la France, tout de même, il est prévenu. Mmh. Si on prend une claque à 7 euros 2021, oui. Je lui colle 4 mois ferme, comme Damien Tarel. Non, je déconne. Non, on est dans une... Bon, écoutez, arrêtez, ne me rendez pas comme ça, cher Sébastien Krebs, on est dans une émission d'humour, quand même. Non, je lui donnais des conseils pour faire son équipe, voilà, c'est tout. N'est-ce pas, Didier? Oui, bonjour. Oui, dès qu'un personnage dont on parle comme par hasard, il est là, et là, en l'occurrence, c'est moi. C'est bien fichu, la radio, hein, pour ce monde imaginaire. Oui, écoutez, le président, je peux le dire à vos auditeurs d'Europe 1, a été tout de même, faut le dire, constructif. Il m'a donné beaucoup de conseils. Bon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'y connaît en football, bon, de façon toute relative, puisqu'il est supporter de l'Olympique de Marseille. Mais quand même, bon, on peut dire qu'il... Pour parler un peu de façon familière, qui touche un peu sa bille.
Et avec les joueurs, ça s'est bien passé ?
Oui, très bien. Très bien. D'ailleurs, les joueurs, je le note, hein, je peux le dire à vos auditeurs d'Europe 1, les joueurs l'aiment bien. Hein, on va tous d'ailleurs voter pour lui en 2022, parce que c'est franchement quelqu'un qu'on apprécie.
Ah bon ? Vous allez tous voter Macron en 2022 ?
Disons qu'on n'a pas trop le choix, parce que si on ne vote pas pour lui, c'est Marine Le Pen qui va passer. Et on n'a pas envie de le voir débarquer, enfin de la voir plus exactement, et le débarquer à Clairefontaine avant une grande compétition. On sait comment ça va se passer. Hein. Elle va débouler avec 50 CRS, elle va louer un charter, et puis elle va mettre dedans Pogba, Kanté, Mbappé, Benzema, Kipembe, Dembélé, Sissoko et Coman. Voilà, bon. Oui, putain, vous imaginez la scène, non bon. Tous rapatriés dans ma liste des 23 à la Coupe du Monde, ça serait quoi ? Ça serait Giroud, Griezmann, Loris et 20 jardiniers. Non, franchement non, je souris un peu parce que c'est vrai que vous l'avez compris, personne n'y tient. Je crois que le football n'a rien à y gagner.
Merci Didier Deschamps. Cette semaine se tient le procès Big Malion. Vous savez, c'est ce procès du dépassement des dépenses autorisées pour la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012. Jean-François Copé a témoigné à la barre. Bonjour Monsieur Copé.
Allez-y, mais voilà.
Quoi,
j'en étais sûr. Allez-y, mais écoutez, Madame Julie, je vois bien votre petit sourire que vous vous réjouissez déjà du fait de voir mon nom associé à une affaire de ce genre. Mais oui, dans votre esprit, c'est déjà Copé l'escroc, Copé le mafieux, Copé c'est Tony Montana sans les cheveux, c'est ça que vous voulez dire, monsieur. Ça vous avait manqué. Et voilà, monsieur Sébastien Krebs qui se met à sourire en même temps. Voilà. Vous avez trouvé un allié. Voilà. Ça vous avait manqué de taper sur Copé. Hein, Europe 1, radio, une radio, que dis-je, radio généraliste, radio bobo, radio gaucho, radio je crache sur la présomption d'innocence et je mets un coup de pied dans les glaouis des droits de la défense, c'est ça?
Non,
mais si, c'est pour bien le dire.
La justice a établi que vous ne vous étiez pas enrichi personnellement, vous n'êtes pas non plus sur le banc des accusés. Pourtant, on a peine à croire qu'en tant que chef de parti et du parti en question, vous n'étiez au courant de rien.
J'étais au courant de rien, parce que chef du parti. Mais allez-y, mais continuez les insinuations, allez-y, régalez-vous, évidemment. Mais évidemment, Madame Julie Allon... Ouvrez les yeux, je n'étais pas au courant. Déjà, je ne savais pas. Souvenez-vous combien coûtait un pain au chocolat lorsque j'étais interviewé.
Tiens.
Alors, comment voulez-vous que je sache ce qui se passe au niveau des finances du parti? Non. Tu pensais que je connais le prix d'une installation de projecteur OXO Mini Beam 35 watts? Eh bien non, vous trompez. J'avais autre chose à faire, excusez-moi. Vous savez, quand vous gérez un parti, vous avez Nadine Morano, Éric Ciotti, Laurent Wauquiez en roue libre. Il faut les surveiller en permanence. C'est ça la réalité de nos chefs de parti. Ça ne laisse pas beaucoup de temps pour regarder combien de paquets de cacahuètes ont été commandés pour un meeting à Savigny-sur-Orge. Excusez-moi.
Et vous avez eu cette phrase lourde de sens, il faut regarder à qui cela profite. Vous pensez à qui ? Pour qu'on soit clair, hein. Allez-y carrément.
Écoutez, vous avez très bien deviné. Écoutez, je vous laisse faire. Non, mais écoutez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas envie de dire. Je laisse vous faire vous-même vos déductions. Mais qui a profité de ce système, franchement ?
Oui, mais c'est pas moi. J'ai profité, oui, parce que je vois tout. Qu'est-ce qui se passe dans les esprits de chacun ? J'ai profité de rien du tout.
Nicolas Sarkozy. Bonjour, monsieur Sarkozy.
Oui, bonjour.
Si, quand même, vous êtes la seule personne qui ait bénéficié de ce système. Hein. C'est vous qui faisiez campagne.
Mais écoutez, c'est Beckham.
Quoi ?
Mme Julie, un petit peu de bon sens. Quand on triche, c'est pourquoi, Mme Julie ? C'est pour gagner. Là, souvenez-vous, j'ai paumé. Hein, monsieur Krebs, c'était moi. J'ai mis sur le cabron. Les témoins aussi. J'ai même paumé, tenez-vous bien, face à François Hollande. Alors accordez-moi deux neurones, Madame Julie, neurones. On ne triche pas pour paumer face à Hollande.
Allez. Alors tant que vous êtes là, tiens, là, l'approche d'Emmanuel Macron, Mimi Marchand, la reine des paparazzi, a été mise en examen samedi dans l'affaire du financement libyen de votre campagne de 2007 cette fois-ci.
Mais c'est pas fini, t'as encore cette enquête. Non mais c'est, mais vraiment les juges s'acharnent, il faut bien le dire, sur moi de façon acharnante. Mais qu'est-ce qui reproche à ma Mimi les juges?
Ils l'accusent de subornation de témoins. En gros, elle aurait forcé Ziad Takieddine à faire son revirement quand il vous a complètement dédouané dans Paris Match l'année dernière.
Mais quelle ignominieuse hein, à cause de Mimi Marchand. Alors je suis à nouveau Mimi en cause, c'est ça hein? Oui, Mimi Marchand, Mimi en cause. C'était pas mal ça quand même.
Non,
parce que vous n'êtes pas arrêté pour rire à ce moment-là. Sautez bien marquer une pause, un gros rire. Alors on la refait. À cause de Mimi Marchand, je suis à nouveau Mimi en cause.
Oh, drôle. Bien les auteurs.
Oui, voilà. Bref, c'est inouï parce que moi, je vous le dis, parce que là, on va marquer une vraie pause. Personne, Mme Julie, M. Cambron, M. Krebs, personne n'a forcé Ziad Takieddine à dire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, et je vais vous dire mieux, j'ai un témoin qui peut le prouver.
Ah bon ? À qui ça ?
Ziad Takieddine lui-même. Oui, il n'y a pas de bébé. Attendez. Ziad, tu viens ici, viens.
Non, je viens pas.
Si, tu viens ici tout de suite, tu viens.
Non, je vais plus faire des faux témoignages.
Mais je te demande pas de faire de faux témoignages, Ziad. Je te demande de répéter ce que je dis. Ça n'a rien à voir. Alors, tu viens ici, voilà. Tu te mets là, devant la caméra, et tu dis, c'est faux, Mimi Mathy, elle ne m'a pas forcé à dire que Sarkozy était innocent. Voilà, tu dis ça, c'est pas un faux témoignage. Est-ce que tu as déjà rencontré Mimi Mathy? Non? Eh bien, alors vas-y.
C'est faux, Mimi Mathy, elle ne m'a pas forcé à faire des faux témoignages de Sarkozy. Voilà, Sarkozy, il est innocent.
Eh bien, voilà, mon Ziad. C'est bien.
Ziad. Pardon, c'est bien, monsieur Sarkozy. Non, on ne parle pas de Mimi Mathy, mais de Mimi Marchand.
Oui, mais ça, on s'en fout. Julie, vous connaissez la radio autant que moi. Après, je vire Mathy au montage. Il restera juste Mimi. Vous inquiétez pas, laissez-moi faire, franchement. En matière de faux témoignages, sachez que je suis très honnête. Hein.
Ah, si vous le dites.
Non, on ne dit pas si vous le dites, on dit si vous le disiez.
Nicolas Canteloup et Philippe Cavrivière, Laurent Vassilio, Arnaud Demange pour les auteurs. Merci à vous Julie, bon week-end, 8h58, bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Sébastien, notre infomédia dans Culture Média du jour s'intéresse à braqueurs, un doc assez exceptionnel, le parcours de 6 braqueurs condamnés à des peines de 18 à 70 ans et ils parlent face caméra, à visage découvert. Nous serons avec Delphine Signé, co-réalisatrice du doc, et Khaled Miloudi, ex-bandit qui est passé par la case prison. Au sommaire également, c'est le lancement de l'Euro ce soir, je vous apprends rien. On serait avec le duo de commentateurs qui fait beaucoup parler sur TF1, c'est pas Margoton Lisa Razou, on les a déjà reçus, c'est Julien Brun, un nouveau venu, et l'ancienne joueuse internationale Sabrina Delannoy. C'est la première fois qu'une femme est consultante pour des matchs masculins sur une grande chaîne. Et puis la chanteuse Clara Luciani, après le carton de son titre La Grenade, 300 000 exemplaires vendus de son premier album, le deuxième sort aujourd'hui et elle a choisi Culture Média pour en parler. Ça s'appelle Cœur.
Et on en a écouté quelques extraits tout à l'heure. À tout de suite pour Culture Média après le journal de Sophie Echen. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous retrouve pour le 5-7 lundi. Mathieu Béliard sera bien sûr de retour à 7h. D'ici là, le monde aura changé et on va vous le raconter.